Chapitre 27. Mon appel mystère se révéla émané de Monsieur Petracelli. Il ne fut pas plus chaleureux au téléphone qu'il ne l'avait été en chair et en os. Il voulait me rencontrer. Il ne voulait pas que Madame Petracelli le sache, le plus tôt serait le mieux. Entendre mon vrai nom au téléphone m'avait secoué. Je ne voulais pas de lui dans mon appartement. Je me sentais déjà suffisamment envahi par le fait qu'il s'était servi du numéro de téléphone que j'avais laissé à Madame Petracelli. Nous décidâmes finalement de nous rencontrer à Faneuil Hall, à l'extrémité est de Quincy Market, à 20h. Monsieur Petracelli maugréa parce qu'il allait devoir prendre sa voiture pour venir en ville, trouver à se garer, mais il finit par accepter. J'avais moi aussi des problèmes à résoudre, comment faire stratégiquement coïncider l'heure de ma pause avec celle du rendez-vous, mais ça me paraissait faisable. Monsieur Petracelli raccrocha, et je me retrouvai seul dans mon appartement, le combiné collé à la poitrine. J'essayais de me concentrer. J'étais censé être au boulot dans 17 minutes. Je n'avais pas nourri Bella, ni changé de vêtements ou défait mon sac. Lorsque je bougeais enfin, ce fut pour reposer le combiné et appuyer sur le bouton play de mon répondeur. Premier message, raccroché. Deuxième message, idem. Troisième message, c'était ma cliente du moment qui, à la réflexion, n'aimait pas les cantonnières. Elle venait de voir ses magnifiques nouveaux rideaux chez son amie Tiffany, alors peut-être qu'on pourrait tout recommencer depuis le début, ou bien, si c'était trop compliqué pour moi, elle pouvait passer un coup de fil à la décoratrice intérieure de Tiffany. Ciao, ciao. Je griffonnais une petite note, puis écoutais trois autres raccrochages. Monsieur Petracelli, qui répugnait à laisser un message, ou quelqu'un d'autre qui essayait désespérément de me joindre. D'un seul coup, après des années d'isolement, j'étais populaire. Bonne ou mauvaise nouvelle? Cela m'inquiétait. Je mordillais mon ongle de pouce en regardant dehors l'obscurité sombre et pluvieuse. Quelqu'un voulait qu'on lui rende le médaillon. Quelqu'un avait trouvé la voiture du commandant Warren. N'était-ce donc qu'une question de temps avant que ce même quelqu'un me trouve ? Bella, déclarai-je brusquement. Ça te dirait de venir au travail avec moi ? L'idée lui plut énormément. Elle tourna une demi-douzaine de fois sur elle-même, trottina jusqu'à la porte et me regarda d'un air interrogateur. Elle ne fut pas contente d'apprendre que je devais me changer, mais cela lui donna le temps de dîner. Pendant qu'elle engloutissait sa pâtée, j'enfilai un jean usé, une chemise blanche basique et des mocassins noirs d'Ansco, idéaux pour une longue soirée debout. Et bien sûr, j'attrapai mon taser tellement pratique, le meilleur allié des femmes, pour le glisser dans mon immense sac à bandoulière. Bella et moi franchîmes la porte en trombe, ne nous arrêtant que le temps de fermer toutes les serrures derrière moi. En bas, j'hésitai à nouveau. Regardez à gauche, à droite. À cette heure-là, la circulation était dense. Les gens accomplissaient leur long périple pour rentrer chez eux après le travail. Sur Atlantic Avenue, c'était probablement par choc contre par choc, surtout avec cette pluie. Mais ma petite rue était tranquille. Seule la lueur des lampadaires se réverbérait sur le trottoir lisse et noir. Je ramenai la laisse de Bella dans ma main et nous entrâmes dans les ténèbres. C'était nul de travailler dans un café. Je passais l'essentiel de mes 8 heures de boulot à m'efforcer de ne pas engueuler les clients qui buvaient trop de café ou mon chef qui n'en buvait pas assez. Ce soir-là ne fit pas exception. 20 heures arrivèrent, 5 personnes faisaient encore la queue dans le désordre, ils voulaient un truc au lait écrémé par-ci, un grand mocha au lait de soja par-là. Je tirais des shots d'espresso en m'inquiétant pour Bella, attachée tout juste à couvert à l'extérieur des portes vitrées, et pour Monsieur Petracelli, qui m'attendait à l'autre bout d'un Quincy Market encombré de vendeurs de nourriture. « J'ai besoin d'une pause », rappelai-je à mon manager. « Il y a des clients », psalmodia-t-il. 20h15. « Il faut que j'aille pisser. » « Apprends à te retenir. » 20h20, une famille d'accros à la caféine prit le café d'assaut et mon manager ne montrait aucun signe de fléchissement. J'en avais assez. J'enlevai prestement mon tablier, le jetai sur le comptoir. « Je vais aux toilettes », dis-je. « Si ça ne vous plaît pas, achetez-moi une autre vessie. » Je sortis en trombe, abandonnant Carl en compagnie de 4 clients abasourdis, dont une petite fille qui demanda tout haut « Elle va avoir un accident ?» J'époussetai en vitesse le café moulu sur ma chemise, poussai vivement les lourdes portes vitrées et me dirigeai droit vers Bella. Elle se leva, langue pendante, prête à partir. Elle fut un peu scandalisée lorsque, au lieu d'aller faire un jogging, je l'emmenais simplement à l'autre bout de Quincy Market, où j'espérais que Monsieur Petracelli m'attendait toujours. Je ne le vis pas tout de suite, au milieu de la petite foule qui s'était amassée devant le pub Ned Devine. Comme la pluie avait cessé, les piliers de bistrot étaient de retour. Je commençais à paniquer lorsque quelqu'un me tapota sur l'épaule. Je fis volte-face. Bella se mit à aboyer comme une folle. Monsieur Petracelli recula à bonne distance. Oh, 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 dit-il les mains levées en regardant mon chien avec inquiétude. Je me forçais à prendre une grande inspiration, à calmer Bella maintenant que tout ce monde nous regardait. « Désolé, marmonnai-je, Bella n'aime pas les inconnus. » Monsieur Petracelli eut un hochement de tête sceptique et ne quitta pas Bella des yeux. Celle-ci s'apaisa enfin, se colla à ma jambe. La tenue de Monsieur Petracelli était adaptée aux intempéries. Un long trench coat beige, un parapluie noir au côté, un feutre brun foncé comme couvre-chef. Il me rappela un personnage de film d'espionnage, et je me demandais si c'était comme ça qu'il voyait notre entrevue, une sorte d'opération clandestine entre professionnels. Je ne me sentais pas très professionnelle à ce moment-là. J'étais surtout contente de la présence de ma chienne. C'était Monsieur Petracelli qui avait organisé cette rencontre, et j'attendis donc qu'il prenne la parole le premier. Il s'éclaircit la voix. Une fois, deux fois, trois fois. « Désolé, pour hier, » dit-il. « C'est juste que, quand Lana m'a dit que vous veniez, je n'étais pas encore prêt. » Il s'arrêta, puis comme je ne disais toujours rien, s'expliqua hâtivement. « Lana a sa fondation, sa cause. Pour moi, c'est différent. Je n'aime pas beaucoup repenser à cette époque. C'est plus facile de faire comme si nous n'avions jamais habité dans Oak Street. Arlington, Dory, nos voisins. C'est presque comme un rêve. Quelque chose de très lointain. Peut-être qu'avec un peu de chance, tout ça n'est arrivé que dans ma tête. « Je suis désolée, » répondis-je sans conviction, essentiellement parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Nous nous étions déplacés maintenant pour nous éloigner de la foule du bar jusqu'à l'autre coin du grand bâtiment aux colonnes de granit. Monsieur Petracelli se tenait encore à l'écart, gardait toujours Bella à l'œil. Ça m'allait très bien comme ça. « Lana m'a dit que vous aviez donné le médaillon à Dory, » dit-il soudain. « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous lui avez donné un de vos... cadeaux ? Est-ce que le pervers qui les a laissés pour vous a tué ma fille ?» Sa voix était montée dans les aigus. Je vis alors quelque chose danser dans l'ombre de ses yeux, une lueur pas tout à fait saine. « Monsieur Petracelli, j'avais dit aux enquêteurs de Lawrence qu'il y avait forcément un lien. Allons, d'abord un voyeur regarde par la fenêtre chez nos voisins, ensuite notre fille de 7 ans disparaît. » « Deux villes différentes, on m'a répondu. Deux modes opératoires, mêlez-vous de ce qui vous regarde, voilà ce que ça voulait dire. Laissez-nous faire notre boulot, espèce de taré. » Il s'énervait tout seul. « J'ai essayé de joindre votre père. Je pensais que s'il pouvait au moins parler aux policiers, il les convaincrait. Mais je n'avais pas de numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous dites de ça ? 5 ans d'amitié, de barbecue, de réveillon du nouvel an, à regarder nos filles grandir côte à côte. » Et un beau jour, votre famille s'envole sans se préoccuper une seconde de nous. J'en ai voulu à votre père d'être parti, mais peut-être que j'étais tout bonnement jaloux, parce qu'en partant, il avait sauvé sa petite fille, alors qu'en ne faisant rien, j'avais perdu la mienne. » Sa voix stridente se brisa, avec une amertume non déguisée. Je ne voyais toujours pas quoi dire. « Dory me manque, » risquai-je finalement. « Elle vous manque ? » répéta-t-il comme un perroquet, et cette lueur mauvaise passa de nouveau dans ses yeux. « Je n'ai pas eu de nouvelles de votre famille en 25 ans. Plutôt bizarre quand quelqu'un vous manque, si vous voulez mon avis. » Nouveau silence. Je piétinais avec gêne. Je sentais qu'il avait quelque chose d'important à me dire, la vraie raison qui l'avait poussé à sortir par une nuit aussi sombre et pluvieuse, mais qu'il ne savait pas encore comment la formuler. « Je veux que vous alliez voir la police. » dit-il finalement en me regardant par-dessous le bord de son chapeau. « Si vous leur racontez votre histoire, surtout le coup du médaillon, ils s'intéresseront de nouveau à l'affaire. Il n'y a pas de prescription en matière de meurtre, vous savez, et s'ils trouvent de nouvelles pistes... » Sa voix tremblait. Il se raidit, continua. « J'ai une maladie cardiaque, Annabelle. Quadruple pontage, chinte. J'ai pour ainsi dire plus de plastique que de chair en moi maintenant. » La maladie finira par m'avoir. Mon père n'a pas vécu beaucoup plus vieux que 55 ans, mon frère pareil. Ça m'est égal de mourir. Il y a des jours où, sincèrement, ça me semblerait un soulagement. Mais quand je mourrai, je veux être enterrée auprès de ma fille. Je veux savoir qu'elle est à mes côtés, qu'elle est enfin rentrée à la maison. Elle n'avait que 7 ans. Ma petite fille, bon sang, elle me manque tellement. Et alors il fondit en larmes, d'énormes et profonds sanglots qui arrêtaient les passants ahuris. Je posai les bras sur ses épaules. Il s'accrocha à moi si violemment qu'il faillit me jeter à terre, mais je me raidis sous son poids. sentit les vagues de son brutal et violent chagrin. Bella gémissait, piétinait nerveusement, donnait des coups de patte à ma jambe. J'en étais réduite à attendre. Pour finir, il se redressa, s'essuya le visage, resserra la ceinture de son imperméable, rajusta le bord de son chapeau. Il ne voulait plus me regarder. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. « Je vais aller voir la police, » lui promis-je. Engagement qui ne me coûtait rien puisque je l'avais déjà fait. On ne sait jamais. La police scientifique progresse tous les jours. Peut-être qu'ils ont déjà fait une découverte importante. « Il y a bien cette fosse à Matapan, » marmonna-t-il. « 6 cadavres. Qui sait ? On aura peut-être de la chance. » Son visage se contracta. « De la chance ! Vous entendez ça ? Bon sang, ce n'est pas une vie !» Je ne fis pas de commentaire. Je jetai furtivement un coup d'œil à ma montre. J'étais partie depuis 20 minutes. J'étais probablement déjà renvoyée de toute façon. Alors quelques minutes de plus ou de moins. « Monsieur Petracelli, est-ce que vous avez vu le voyeur ?» Il secoua la tête. « Mais vous croyiez que cet homme existait, n'est-ce pas ? Que quelqu'un vivait dans le grenier de Madame Watts et me surveillait ?» Il me regarda bizarrement.
« Eh bien, je ne pense pas que Madame Watts et votre père auraient inventé un truc pareil. D'ailleurs, la police a retrouvé le matériel de camping de l'individu chez Madame Watts. Ça me paraît bien réel. »
« Donc vous n'avez jamais vu cet homme, de vos propres yeux ?» Il secoua la tête.
« Non. Mais 2 jours après la découverte des objets dans le grenier de Madame Watts, nous avons eu une réunion de quartier. Votre père a fait circuler un signalement du voyeur avec une liste des cadeaux que vous aviez reçus et leur date d'arrivée. Il nous a dit que les policiers ne pouvaient pas faire grand-chose. Tant qu'il ne s'était rien passé de réellement criminel, ils étaient pieds et poings liés. » Naturellement, nous étions tous hors de nous, en particulier ceux qui avaient des enfants. Nous avons voté pour organiser une surveillance de voisinage. D'ailleurs, nous venions juste de tenir notre première réunion quand votre père a annoncé que votre famille prenait des petites vacances. Aucun de nous n'a compris que nous n'allions plus jamais vous revoir.
Est-ce que par hasard vous auriez ces documents ? Le signalement du voyeur que mon père a fait circuler ? Enfin, je sais que ça remonte à longtemps, mais... Monsieur Petracelli sourit doucement.
Annabelle. Ma mignonne. J'ai une grosse chemise en papier kraft qui contient tous ces documents jusqu'au dernier. Je l'ai prise avec moi chaque fois que nous avons eu rendez-vous avec la police depuis la disparition de ma petite fille. Et à chaque rendez-vous, ils l'ont poliment mise de côté. Mais j'ai tout gardé. En mon fort intérieur, j'ai toujours su qu'il y avait un lien entre la disparition de Dory et la vôtre. Seulement, je ne suis jamais arrivée à convaincre personne d'autre.
Est-ce que je pourrais en avoir une copie ?
Dis-je en farfouillant déjà dans mon sac pour trouver une de mes cartes de visite. Je ferai de mon mieux.
Monsieur Petracelli, vous avez dit que vous connaissiez mon père depuis 5 ans. Était-ce vous qui étiez arrivé les premiers dans le quartier ou bien nous ?
Votre famille est arrivée en 77. Lana et moi avions emménagé quand elle attendait Dory. Nous avons entendu une rumeur comme quoi une famille s'installait avec une fille de l'âge de Dory. Lana venait de sortir les cookies du four quand le camion de déménagement est arrivé. Elle y est allée avec des gâteaux et Dory en remorque. Vous êtes devenus inséparables dès cet après-midi-là. Nous avons reçu vos parents à dîner le 2e soir et l'affaire était entendue.
Je lui souris pour encourager d'autres réminiscences. Oh, vraiment ? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. J'imagine que j'étais trop jeune.
Vous aviez quoi ? 18 mois ? 2 ans ? Vous aviez cette super façon de marcher en vous dandinant. Vous vous poursuiviez dans toute la maison en criant à plein poumon. Lana secouait la tête en disant que c'était un miracle que vous ne tombiez pas plus souvent.
Monsieur Petracelli souriait. Pas étonnant qu'il soit si tourmenté. Malgré ce qu'il avait dit, il gardait un souvenir très vif du passé, comme d'une vieille photographie qu'il regardait souvent. D'où arrivait ma famille ? Vous le savez ?
De Philadelphie. Votre père avait travaillé à l'université de Pennsylvanie, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais compris grand-chose à son travail. Même si je dois dire que, pour un professeur, il avait très bon goût en matière de bière. Et puis, il était fan des Celtics. Il ne m'en fallait pas plus.
« Je n'ai jamais compris grand-chose non plus à son travail, » murmurai-je. « Enseigner les maths m'a toujours paru tellement ennuyeux. Je me souviens que je jouais à faire comme s'il était dans le FBI.
« Russell !» dit Monsieur Petracelli en éclatant de rire. « Peu probable. Je n'ai jamais vu un homme qui ait une telle hantise des armes à feu. » Lors de cette réunion pour monter un comité de surveillance dans le quartier, certains ont envisagé d'acheter des armes pour se protéger. Votre père ne voulait pas en entendre parler. « C'est déjà bien assez grave qu'un individu ait fait entrer la peur chez moi », soutenait-il. « En aucun cas, je ne le laisserai y faire entrer aussi la violence. » Non. Votre père était un universitaire libéral jusqu'à la moelle. Les vertus du dialogue, le pacifisme, toutes ces conneries.
Vous avez acheté une arme ?
Oui. Je ne me doutais pas que j'aurais dû l'envoyer à Lawrence avec Dory.
Le visage de M. Petracelli se tordit à nouveau, submergé par l'amertume. Sa respiration se fit plus courte, pénible. Je repensais à son cœur.
« Lana m'a dit que vos parents étaient morts, » dit-il tout à coup.
« C'est vrai.
Quand ?»
Je réfléchis à sa question, me demandais où il voulait en venir. « C'est important ?»«
Peut-être.
Pourquoi ?»
Les lèvres pincées, il me demanda brusquement, sans tenir compte de ma réponse, « Où êtes-vous allée, Annabelle ?» Quand votre famille est partie en vacances, vous êtes allé loin ?
Jusqu'en Floride.
Et votre père a vraiment trouvé du travail là-bas ?
C'est pour ça que vous êtes resté. Il travailla comme taxi. Ce n'était pas comme être professeur, mais il trouvait qu'il n'avait pas perdu au change, je crois. Monsieur Petracelli parut surpris. Que mon père ait été prêt à renoncer à sa carrière universitaire, ou qu'il n'ait pas menti en disant qu'il avait trouvé du travail ? Je n'étais pas sûre. Il cligna des yeux.
« Désolé, » dit-il au bout d'un moment. « J'imagine que je deviens paranoïaque avec l'âge. C'est facile étant donné que je me réveille presque toutes les nuits en hurlant. »
La pluie s'était remise à crépiter. Monsieur Petracelli se détournait déjà pour partir. Je l'arrêtai en posant une main sur son bras. « Pourquoi ces questions sur mon père, monsieur Petracelli ? Qu'avez-vous besoin de savoir ?»«
C'est juste que, après la disparition de Dory... Un voisin a affirmé avoir vu un homme circuler dans le quartier avec une camionnette blanche, et il a même fourni un signalement du type à la police. Lana n'a jamais été d'accord avec moi, bien sûr, mais ma première idée...
Oui ?
Cheveux bruns coupés courts, visage bronzé, vraiment beau gars.
Allons, Annabelle. Soudain, le visage de M. Petracelli changea à nouveau, et cette lueur maligne revint dans son regard.
Dites-moi qui c'était.
Un instant, je restais sans comprendre. Puis, lorsque l'allusion fit mouche, j'essayai d'arracher ma main. Il s'accrocha à mes doigts, ne les lâcha pas. « Ne soyez pas ridicule, » dis-je vivement.
« Ouais, Annabelle. L'homme qui a enlevé ma Dory, il ressemblait trait pour trait à votre cher vieux papa. »
Il me rendit violemment mon bras. Je tombai sur le trottoir mouillé, mes doigts meurtris se posant par réflexe protecteur sur ma poitrine, tandis que Bella aboyait tant qu'elle pouvait. Je l'attrapai, essayai de la calmer, de me calmer. Lorsque je levai à nouveau les yeux, M. Petracelli était parti, et seule l'horreur de son accusation flottait encore dans l'air humide et sombre.